On fait maintenant une série de cours concernant une des melachot, un des 39 travaux de Shabbat les plus ardus et les plus courants, Bishoul. Bishoul, qu'est-ce que c'est? La cuisson. Dans le temple, dans le sanctuaire, il y avait la melacha, le travail, la préparation des condiments, des épices, la couleur qu'on cuisait pour les différentes nécessités qu'il y avait dans le cadre du sanctuaire. On apprend la liste des 39 travaux de ce qui se faisait dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est quelque part un macrocosme, c'est un petit monde qui a été créé. Hachem a créé le monde en 6 jours plus 1. 6 jours où il l'a créé, c'est le 7e jour où il s'est reposé. Mais cette création des 6 jours, des travaux qu'il a fait pendant les 6 premiers jours, comment elle s'est faite? Le premier jour, Hachem a créé toute la matière. Elle était brute. Et après, pendant 6 jours, il a agencé. Il a intervenu de façon constructive dans la matière. De combien de façons? De 39 façons. Lorsque le temple a été construit, le sanctuaire dans le désert, il y a aussi eu 39 interventions intelligentes, constructives dans la matière qui ont été faites. Les 39 travaux de Shabbat correspondent à ces 39 interventions constructives dans la matière. Si quelqu'un, tape dans les mains, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ferme le pan de ses lunettes, il l'ouvre, d'accord? Ce n'est pas une intervention constructive dans la matière. Il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas changé. Quand on parle d'une intervention constructive, ça veut dire deux choses. Premièrement, qu'il a l'intention de faire quelque chose. Parce que la melechet marchevet asra Torah, la Torah interdit une action qui est le fruit d'une pensée. Si quelqu'un Shabbat, sans faire exprès, il s'adosse sur le mur et il éteint la lumière parce qu'il a touché l'interrupteur avec son épaule, il n'a absolument rien fait. Même pas interdit de Rabbanan, rien. Il n'y a aucun problème à cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune pensée de faire cela. Attention, si la nuit se lève à moitié endormi et il oublie que c'est Shabbat, il rentre en toilette, il allume la lumière. Le mec n'a pas tellement pensé ce qu'il faisait, mais néanmoins il a complètement pensé. Parce qu'au niveau de l'acte, d'accord, il y a le cerveau a ordonné à la main d'allumer. Elle a oublié que c'était Shabbat. Alors, on appelle ça Shogeg. C'est moins grave, Shogeg, c'est une fille de façon involontaire. C'est pas qu'il s'est dit c'est Shabbat maintenant, mais tant pis, j'en ai rien à faire, j'allume la lumière. Ça c'est volontaire, c'est beaucoup plus grave. C'est quand même une melacha. Comme une melacha qui a été faite de façon involontaire, une melacha, c'est-à-dire un des 39 travaux de Shabbat qui a été fait, de façon involontaire. Par contre, si l'action a été faite sans qu'il y ait aucune intention, aucune pensée qui accompagne cela, c'est rien. Parce que, de même qu'Hachem crée le monde avec une intention, l'action, le fruit de l'intention, il y a une pensée qui a précédé l'acte, ainsi aussi, à Shabbat, il y aura des interdits. On considérera qu'il y a un des travaux de Shabbat qui a été transgressé, que s'il y a eu une pensée qui a précédé l'acte. Comment apprenons-nous la nature des 39 travaux de Shabbat? Chazal, donc nos sages de mémoire bénie dans le Talmud, les ont énumérés, le chapitre 7 de traité Shabbat, et ils apprennent du temple, au sanctuaire, plus précisément au sanctuaire, les 39 travaux qui étaient nécessaires, les 39 interventions constructives dans la nature, dans la matière, qui étaient nécessaires pour la construction du sanctuaire, qui était une sorte de microcosme du monde. Il est marqué que Betzalel Ben Uri, celui qui a créé, qui a fabriqué le sanctuaire, connaissait les lettres avec lesquelles le monde a été créé. Le monde a été créé au moyen de lettres. D'accord, Hachem, il a parlé. C'est pas qu'il y avait la bouche de Dieu avec sa barbe, il y a des sons qui sont sortis. Il y a 22 forces divines correspondant aux 22 lettres de l'alphabet juif. Et Hachem a agencé ces forces divines, ces forces créatives, pour faire les différents 39 interventions de sa part dans la matière première. Là aussi, au sanctuaire, Betzalel connaîtra la nature de ces 22 forces et va agencer ces 22 forces, ces 22 moyens d'intervention dans la nature, au moyen de 39 travaux. Il y aura 39 travaux. Un des travaux les plus courants auxquels nous sommes confrontés Shabbat, c'est la notion de cuisson. Une cuisson interdite Shabbat. Mais avant de rentrer dans le domaine de la cuisson exactement, j'aimerais faire une petite introduction sur quelques notions basiques de Shabbat. On a déjà fait sur certains cours d'introduction sur Internet, mais je vais le refaire maintenant parce que ce soit bien frais à votre esprit pour comprendre, on sera amené à amener ces notions-là dans le cadre de ces cours-là. Donc comme j'ai dit, pour qu'il y ait la notion de Melacha, c'est-à-dire d'un de ces 39 travaux interdits Shabbat, il faut qu'il y ait une pensée qui précède l'acte. Si l'acte était fait de façon volontaire, on sait que c'est Shabbat, et néanmoins on le transgresse, alors on appelle ça interdit Deoraita. Deoraita, c'est fait de la Torah. Du temps du temple, c'était sanctionné, s'il y avait deux témoins et avertissements sanctionnés par la lapidation. Aujourd'hui, il n'y a pas de lapidation, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de témoins. Mais néanmoins, on subit le karet. Karet, c'est une sanction extrêmement grave de retranchement de l'âme. D'accord ? Le Shabbat est extrêmement grave. Celui qui transgresse cela de façon volontaire, alors il y a un retranchement de son âme du Olam Haba. À certains égards, il reçoit un statut de non-juif. À certains égards, c'est juif, certainement, à certains égards. S'il le faisait de façon publique, volontaire, devant 10 religieux, alors il reçoit ce statut de non-juif. Le karet, même s'il est tout seul dans sa chambre, du moment qu'il sait que c'est interdit de faire cela à Shabbat, et on parle d'un travail interdit des oraita de la Torah. Alors, si c'est fait de façon c'est-à-dire volontaire, c'est interdit de la Torah.
Justement, par rapport à ça, est-ce qu'une personne qui est en manque de connaissance, ou qui ne sait pas que...
Non, c'est quelqu'un. Alors, maintenant, le deuxième niveau, la personne sait qu'il a fait une action avec une pensée. Il veut allumer la lumière, mais de deux choses l'une. Ou il ne sait pas que c'est Shabbat, ou il ne sait pas que c'est interdit. Voilà. Dans les deux cas, on appelle cela Shogeg. Shogeg signifie involontaire. Du temps du temple, ça nécessitait d'amener un sacrifice, une chèvre ou un mouton femelle. On appelle ça un sacrifice Khatat au temple. Aujourd'hui, on n'a pas de temple, bientôt Bézant HaShem va se reconstruire. Donc il y a certainement ici aussi un péché qui a été fait, une chose négative, une réalité négative qui a été créée par le fait que ce soit involontaire. C'est bien sûr pas aussi grave que volontaire, mais néanmoins, c'est déjà quelque chose. S'il fait une chose, comme j'ai dit, sans s'en rendre compte, c'est-à-dire sans aucune intention, on appelle ça mitasek, c'est rien, c'est même pas interdit des rabbanan. Derabanan, qu'est-ce que c'est Derabanan? À part les 39 travaux, qui bien sûr vont aussi se dispatcher en différents moyens, d'accord, on aura peut-être 100 ou 150 façons de transgresser un des 39 travaux, il y a aussi quelques centaines aussi d'interdits de Shabbat qui sont Derabanan. Derabanan, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas marqués clairement dans la Torah. On va peut-être expliquer cela tout de suite, ça veut dire quoi, c'est pas marqué clairement dans la Torah. Mais néanmoins, les rabbanan, c'est-à-dire les sages d'Israël, c'est qui les sages d'Israël? En gros, c'est Moshe Rabbeinu, Aaron, d'accord, ça remonte à très très haut, ont institué des barrières, des choses qui sont aussi interdites, de façon à ce qu'on ne soit pas amené à transgresser l'interdit principal, celui de Horaïta, celui de la Torah. Par exemple, prenons l'exemple des rabbanan. De la Torah, on n'a pas le droit, par exemple, de presser un fruit pour faire du jus. Mais quel fruit? Uniquement un fruit qui fait un jus qui est important. C'est quoi? Le raisin, parce qu'il fait du jus de raisin, du vin, et l'olive, parce qu'elle fait de l'huile d'olive. Ça, c'est interdit de la Torah. Chaque fois qu'on pressera un autre fruit, une orange, un citron, d'accord, ça sera interdit des rabananes. Parce que ce n'est pas interdit de la Torah. La Torah interdit que jus de raisin et huile d'olive. Et quand on pressera autre chose, on fera interdit des rabbanan. Ça, ce sont Moshe Rabbeinu, Aaron, les sages d'Israël qui ont institué pour pas que tu sois amené à presser l'interdit grave, le raisin ou l'olive, on t'interdit de presser toutes sortes de fruits duquel sort un jus qui est comestible.
Donc, même pour consommation immédiate.
Oui. Interdit.
Et si on prend ces interdits-là, est-ce que
alors, l'interdit de la sanction de karet, c'est uniquement si on transgresse l'interdit de la Torah. Le statut de non-juif peut être reçu aussi en transgressant l'interdit des rabbanan.
Est-ce que ça
s'entendait par statut de non-juif ?
Le non-juif, ça veut dire qu'il y a certaines actions qui nécessitent que ce soit un juif qui les fait pour qu'elles soient valables. Par exemple, quelqu'un écrit un Sefer Torah. S'il est juif, un Sefer Torah, il est cachère. Si c'est un non-juif, il n'est pas cachère. Alors, si c'est un juif qui l'écrit, ce juif, il est Mechalel Shabbat, il transgresse le Shabbat, alors il a un statut de goy. Pour recevoir un statut de goy en transgressant le Shabbat, il faut deux conditions, qu'il le fasse de façon volontaire et devant 10 personnes pratiquantes, la Torah. Ou que 10 personnes pratiquantes savent qu'ils transgressent cela. D'accord, pas besoin qu'ils soient en train de le voir, mais ils savent ce type-là, lui, il fait rien.
Et les sanctions de ce statut de non-juif, il ne compte plus dans le Kaddish, il ne peut plus monter à la Torah.
Il ne peut pas monter à la Torah, il ne peut pas dire Kaddish, on ne répond pas à son Kaddish.
Il doit mettre tefilin.
Il doit mettre tefilin. S'il fait le kiddush n'est pas valable. S'il écrit un sefer Torah Jadis, s'il égorge un animal de façon rituelle, l'animal n'est pas cachère. C'est à peu près ces choses-là.
Est-ce qu'il peut faire tchouva?
Bien sûr qu'il peut faire tchouva. Surtout, on peut faire tchouva, absolument.
Mais un juif, par essence, il reste un juif?
C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas qu'il devient un non-juif. J'ai dit, à certains égards, il reçoit un statut de non-juif. C'est un juif. C'est un juif. Un juif reste juif. On peut devenir juif, on ne peut pas devenir goy. D'accord? Un goy peut devenir juif. Mais un juif ne peut pas devenir goy. Une fois que tu es dans le club, c'est comme la mafia, d'accord? On ne quitte pas le club. Ok.
Non, mais moi, ce qui m'intéresse, si on transgresse un des travaux des Ramanan, est-ce qu'on perd
l'âme,
la shrina de Shabbat?
On perd un peu. C'est clair que des Ramanan, ce n'est pas simplement une barrière que Chazal ont donnée, c'est une réalité spirituelle. Toutes les lois des Ramanan correspondent à une réalité spirituelle très claire, moins grave que celle d'une transgression d'un interdit de la Torah, mais néanmoins tout à fait présente. Et très souvent, on verra d'ailleurs que Chazal et les sages d'Israël vont donner des raisons assez absurdes pour motiver la raison d'un interdit qu'ils vont dire. Et néanmoins, l'interdit reste. Même des fois, ce sont des raisons qui n'ont plus lieu d'être. Par exemple, quelqu'un a mal de tête Shabbat. D'accord ? Il veut prendre maintenant une pilule, un doliprane. C'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas prendre des médicaments Shabbat. Que si c'est une maladie, un point tel où il est couché au lit, où il ne peut plus marcher normalement, il a mal de tête à un point, où on voit qu'il est très affaibli, d'accord ? Là, on considère comme un malade. C'est juste maintenant, il a mal. Il a mal. Bon, mais il a l'air normal. Quand on le voit comme ça, on ne voit pas qu'il a mal. Il a mal à la tête, il a mal aux dents, d'accord ? Il peut prendre un calmant. Pourquoi ? On ne prend pas un médicament au Shabbat. Pourquoi ? De peur qu'on va broyer pendant Shabbat des condiments et faire un médicament. D'accord ? Pour faire un médicament, il faut prendre des sortes d'herbes, des machins, tac, tac, on les broie ensemble. Ok. C'est pas courant aujourd'hui que quelqu'un a chez lui un pilon, comme ça, il prend des trucs, il commence à faire la chimie chez lui à la maison. Il y a des pilules, c'est ça. Alors, on aurait dû normalement annuler cela. C'est certain que sous le décret de Chazal, il y a des raisons toujours beaucoup plus profondes. Un autre exemple, il est important, on doit, d'après Halakha, une fois qu'on a fini de manger un repas de pain, avant de se préparer à l'Amazon, il faut se laver les mains, le bout des mains, le bout des doigts. C'est important. C'est plus important que l'intilat yadam qu'il y a avant le repas. C'est marqué que les soldats qui partent en guerre, ils sont exemptés, il n'y a pas toujours de l'eau, d'accord ? Alors, ils sont exemptés de se laver les mains avant le repas pour manger du pain, mais ils ne sont pas exemptés de se laver les mains après le repas avec un peu d'eau pour le bout des doigts. Quelle est la raison ? Chazal l'ont dit, vu que lorsqu'on mange du pain, il y a un peu de sel, et dans le sel, il y a, dans les variétés de sel, il y a un certain sel qu'on appelle mélarsdomide, du sel de Sodome. Dernièrement, les gens ont retrouvé ça, il y a une sorte de sel, une sorte de nitrate de quelque chose qui est vraiment extrêmement dangereux, que si on le met dans les yeux, on devient aveugle. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est très, très, très rare de tomber sur ce nitrate de potassium, c'est un truc, il faut vraiment le faire. Mais vu qu'il y a une chance sur un milliard que ça arrive, Chazal ont dit, obligation de se lever les mains après avoir mangé. Ça ne tient pas debout. Attends, je vais expliquer, ça ne tient pas debout, parce que ce moment-là, ne mange pas avec du sel, d'accord ? Parce que je pense que pendant le repas, ok. Et pourquoi la Kabbalah vient et dit ça, mon cher ami, c'est la raison qui est donnée. Mais c'est clair que c'est une raison superficielle. Dessous, des raisons beaucoup plus profondes. On donne une partie au côté négatif. Bon, on prend un coup à l'occasion, c'est pas le matin, on est au niveau de l'Alakha et pas de Hashkafa. Mais comprendre que sous les décrets de Chazal se trouvent des choses extrêmement importantes qui ne sont pas d'habitude que que le motif qui a été évoqué, qui est d'habitude un motif superficiel. Un troisième exemple, allez, je suis dans la lancée. Quelqu'un, bientôt on a la fête de Shavuot, d'accord ? Quelqu'un qui habite étranger doit faire 2 jours de Shavuot. Celui qui habite Israël doit faire 1 jour. Pourquoi 2 jours ? Parce qu'à l'époque, il y avait un témoignage de 2 témoins qui devaient aller au temple et dire qu'ils ont vu la nouvelle lune. Et on savait que le nouveau mois était rentré et on envoyait des messagers aux alentours de Jérusalem, et ces messagers arrivaient, pouvaient arriver jusqu'à certaines dates pour arriver à dire que c'est le nouveau mois. Donc toute la région qui est autour de Jérusalem, dans laquelle on peut savoir que le nouveau mois est arrivé, alors on fait 1 jour. Tous les étrangers, les juifs étrangers qui habitaient en exil, ne pouvaient pas savoir c'était quand le nouveau mois. Donc pour ne pas transgresser le jour de Yom Tov, c'était 2 jours. On est certain, si c'est pas, parce qu'on sait que si ce n'est pas le 30e jour du mois, alors c'est le 31e. C'est là où, là, parce que la longueur du mois, elle fait 29 jours et demi et 40 minutes environ. Donc 29 et demi, on sait que ce sera 1 mois 29, 1 mois 30. Ok, c'était valable quand ? Il y a 2500 ans. Aujourd'hui, dans n'importe quel, même dans l'iPhone, aujourd'hui, tac, tu fais un bouton, d'accord, tu as les calendriers, enfin, tu sais exactement, à la seconde près, c'est quand la nouvelle lune, etc., quand sera le nouveau mois. Ça va. Pourquoi embêter maintenant 10 millions de juifs à l'étranger de faire 2 jours de Yom Tov? Ils ont Pessah 2 jours, après Shabbat oublié encore 2 jours. D'accord, au secours. D'accord, c'est insupportable. Il est clair qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes à cela. Le Yom Tov, d'accord, le jour de fête s'appelle en hébreu Yom Tov. C'est quoi Yom Tov? Un jour bon. Bon, les non-juifs, tous les jours, ils ont des jours bons. Bonjour, d'accord. Peut-être qu'il rêve d'avoir un jour bon, je ne sais pas. Pourquoi, c'est quoi un jour bon, d'accord? C'est quoi un jour bon? C'est quoi un bon jour? Qu'est-ce qu'il y a de si bon là-dedans? Alors, le sens profond est le suivant. La première fois où c'est marqué Tov dans la Torah, c'est à propos de la création de la lumière. Lorsque Hachem a créé la lumière, il a dit Vayar Aor ki Tov. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Quand on parle de lumière, on ne parle pas de la lumière des néons ni du soleil, on parle d'une lumière spirituelle extrêmement grande, divine. Le jour de Yom Tov, le jour de fête, il y a un flux de lumière divine très très grand qui vient dans l'âme des personnes. En se purifiant un peu, c'est tout à fait sensible. Hein. Les gens peuvent pas, c'est sensible. Les jours de fête, comme ça, on peut sentir un flux très grand. À l'étranger, étant donné qu'il y a beaucoup d'écrans d'impureté, ce flux divin ne vient pas dans l'âme en 1 jour. C'est impossible. Parce qu'il faut que ça traverse trop de saleté. Donc il arrive, mais en 2 jours. Maintenant, ce n'est pas le fait simplement d'habiter l'étranger, c'est la nature de l'âme. Quelqu'un qui habite à l'étranger, au niveau de son âme, il lui manque certaines parties d'âme qui font que le flux ne peut pas arriver. Quand il vient en Israël, il reçoit ses parties d'âme. Quelqu'un qui n'a jamais... On a 3 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama. Celui qui n'a jamais été en Israël de sa terre n'a que Nefesh. Quand il vient la première fois, il reçoit Ruach. Quand il vient habiter, il reçoit la Neshama. Maintenant, il peut perdre. Quand quelqu'un va habiter maintenant et il part habiter l'étranger, ben, il perd son côté de Neshama. Quand il vient aussi et qu'il est proche d'habiter, il peut recevoir aussi juste pour le temps qu'il est là. Bon, c'est des histoires d'âme, d'accord ? Donc, on comprend ici de nouveau, c'est un exemple pour montrer comme quoi, lorsque Chazal donne une raison, c'est une raison qui est, évidemment, je ne peux pas donner aux petits-enfants leur expliquer, à l'âge de 12 ans, il y a un flux de lumière, mais je ne vois pas la lumière, papa, de quoi tu parles, d'accord? Alors on vous donne des raisons qui sont enfantines. Elles sont vraies aussi, ça existait, cette notion de 2 jours, 1 jour, parce qu'on ne connaissait pas exactement le calendrier. Mais on comprend que ça ne tient pas à la route, on est obligé d'avoir des secrets plus profonds qui motivent cela. Tu as une question? Oui.
Il y a des juifs qui sont d'une pureté inouïe en Khoutz Laaretz. Comment on reçoit Nefesh, Rouar, Neshama? La première fois, en Khoutz, on a Nefesh, on a Rouar, après on a Neshama.
Des parties. Quelqu'un peut avoir Neshama à l'étranger, mais il manquera des parties de Neshama qu'il peut avoir que s'il habite Israël.
Donc ça veut dire que là, tant que nous, on réside en Eretz Israël, on reçoit tout ce qu'Hachem nous donne, et quand on va retourner, on va perdre tout ça?
Eh oui, mon cher, pas tout ça. Tu gardes une petite partie, mais tu perds beaucoup aussi. Ok, continuons sur Shabbat. Alors, maintenant, les notions auxquelles je voulais arriver, qui sont les notions importantes. Il y a une notion Shabbat qui s'appelle Psik Recha. Psik Recha signifie couper la tête. De quoi s'agit-il? Si quelqu'un fait une action en soi permise Shabbat, qu'on va appeler action 1, que de façon obligatoire et directe, entraîne une action 2 qui, elle, est interdite Shabbat. Par exemple, quelqu'un ouvre le frigo, et quand il ouvre le frigo, la lumière s'allume. Ouvrir un frigo Shabbat, c'est permis. Encore, quand le moteur du frigo fonctionne, on va dire. D'accord ? Maintenant, allumer une lumière Shabbat, c'est interdit. La personne, lorsqu'elle ouvre le frigo, ne peut pas dire qu'elle est en train d'allumer la lumière. Elle ouvre un frigo. Donc elle fait une action 1, permise, mais qui entraîne de façon directe obligatoire l'action 2, qui est l'allumage de la lumière. On appelle ça la psychrécha. C'est quoi psychrécha ? C'est couper la tête. À l'époque, il n'y avait pas de ballon de foot, il y avait des têtes de coq. Les gens jouaient le foot avec les enfants, avec des têtes de coq. Alors, deux enfants veulent jouer au foot tête. au foot head, d'accord. Le chicken head, d'accord, le Shabbat. Et pour cela, ils doivent couper la tête du coq.
Ça va en faire, hein.
Pardon ?
Là, c'est l'action A qui est en faire.
Alors, eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent un couteau et coupent de la viande, coupent de la chair. Ils n'ont pas l'intention de tuer le coq. Oui, ils coupent de la chair. Ils coupent un morceau de viande. D'accord ? De façon obligatoire, lorsque tu coupes le morceau de viande, chose en soi qui est permise, tu entraînes le décès malheureux du coq qui n'a rien fait. D'accord ? Chose interdite, Shabbat. Donc, on a fait l'action 1, qui de façon obligatoire entraîne l'action 2. Chazal, on prend cet exemple-là pour dire, tu ne peux pas couper la tête à quelqu'un et il va survivre. Psychrécha, Mout de la Gemara, tu vas lui tout couper la tête et il va survivre. Il ne va pas mourir. Tu ouvres un frigo sans que ça allume la lumière quand le système est enclenché, c'est impossible. Ça sera interdit. Il sera interdit de faire l'action 1 lorsque ça entraîne forcément l'action 2. Psychrécha. Bien que je n'ai pas l'intention de faire l'action 2, mais vu que c'est tellement direct. Quand tu fais 1, on dit tu fais 2, comme tu m'as dit toi, mais quand je coupe, je tue. D'accord, ça se ressemble beaucoup. À un point tel qu'on va dire que c'est interdit. Néanmoins, on aura des fois aussi interdit de la Torah, de Horaïta, des fois interdit des Rabbanan. Donc moins grave, interdit aussi, mais moins grave. Quand c'est interdit de Horaïta, quand c'est interdit des Rabbanan, lorsque je suis intéressé par le résultat de l'action 2. Par exemple, dans mon frigo, il fait tout noir. Le fait que la lumière s'allume, ça m'aide à trouver une chose qui est cachée quelque part. Alors c'est interdit de la Torah. On appelle cela psychrécha des nihalé. Nihalé signifie en hébreu, saluer agréable, saluer utile. C'est un psychrécha qui m'est utile. Donc vu que quelque part tu es intéressé au résultat numéro 2, même si tu le fais de façon indirecte par le biais du numéro 1, c'est interdit de la Torah comme si tu as fait directement le numéro 2. Si par contre tu n'es pas intéressé au résultat numéro 2, par exemple, quelqu'un a besoin dans sa maison d'une table. Il va chez le voisin, la villa à côté, ils habitent dans des villas. Et pendant Shabbat, il tire la table de chez le voisin, chez lui. Puis en passant, il passe dans son jardin, et le pied de la table fait un beau sillon dans la terre du jardin. Faire un sillon Shabbat, c'est interdit de labourer, c'est interdit. Maintenant, lui, est-ce qu'il est intéressé maintenant d'avoir au milieu de son jardin, il avait sa pelouse comme ça, donc un sillon qui casse tout ? Non, ça l'embête. Donc, il fait l'action 1, qui n'est pas faire un sillon. Si on lui demande, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis en train de tirer une table. Je ne suis pas en train de m'attendre de faire un sillon. Je ne suis pas en train de labourer. Donc, il fait l'action 1, qui est celle de tirer une table. Qui entraîne forcément, on parle maintenant que la terre est molle, ou il a plu, d'accord ? Qui va entraîner forcément l'action 2, qui est celle de faire un sillon. S'il est intéressé par ce sillon, parce que demain il veut planter des radis, alors il a fait interdit de la Torah. S'il n'est pas intéressé, au contraire, ça gâche toute sa pelouse, c'est interdit des rabbanan. On appelle ça psychrécha des lonichale. Un psychrécha qui ne lui est pas agréable. Lui, au contraire, ça l'embête. D'accord ? Chaque fois qu'on fera une action 1 qui va entraîner une action 2, mais l'action 2 nous embête, alors ça reste interdit des rabbanan. Ok, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Question ?
Non, il ne reste pas cette notion de connaissance parce qu'en effet, comme vous dites, la personne, elle sait que ça va faire un sillon et ça peut être de la paresse, par exemple, mais elle sait qu'il va avoir un sillon.
Alors, c'est oui, elle a la connaissance, mais ça, est-ce que. Alors, si elle a la connaissance, elle sait que c'est interdit.
La paresse, par exemple.
Elle fait Et ça l'embête le sillon, ou ça l'embête pas?
Ça l'embête,
mais il sait que ça aura lieu. Alors c'est un psychrécha.
Un sillon est normalement un sillon, on ne doit pas le faire.
Ouais. Ok, alors c'est un psychrécha des rabananes, ce qui fait interdit des rabananes, méside, volontaire. Et il a un statut d'avoir transgressé un Shabbat en interdit des rabananes. S'il ne savait pas que c'était interdit, alors il a transgressé le Shabbat, shogeg. Shogeg signifie de façon involontaire, c'est moins grave, mais c'est interdit aussi. Baruch Adonai, le Rolam, Amen.
J'ai du mal à comprendre le fait que vous mettez dans le même sac.
Attends.
Un bonhomme qui fait une action, il sait que c'est Shabbat, il dit voilà, mon fils Shabbat, j'ai mis la lumière, donc lui, c'est interdit, vous avez dit de Raita. Et un bonhomme qui, quand il va tirer sa table, il fait un sillon, et que, admettons que le lendemain, il peut en profiter. Quand il a tiré la table, son but c'était de tirer la table, c'était pas de faire le sillon. Donc pourquoi que. Si maintenant c'est fait, c'est fait.
S'il sait que ça va faire le sillon, et s'il a un intérêt à cela, c'est aussi interdit de la Torah, parce que quelque part, il est intéressé par le résultat, il sait que ça aura lieu, et le fait de façon indirecte, mais tellement le indirect, il est très petit. Il y a une notion dans le Shabbat qui s'appelle gramma, c'est faire une action de façon indirecte. C'est toujours interdit à banane, mais ça, on parle d'un grand indirect. T'as lancé une bille, ça tombait tac sur un machin, qui a fait une balle en ting, ça fait à la fin, ça a donné. D'accord? C'est interdit des rabananes. Par exemple, quelqu'un ouvre chez lui l'eau chaude. Quand il ouvre l'eau chaude chez lui, automatiquement de l'eau froide rentre dans la chaudière. Et il fait une cuisson. Une cuisson d'eau chaude. Enfin, une cuisson d'eau froide dans l'eau chaude. La cuisson elle-même, elle est interdite d'oraita. Mais vu qu'elle fait de façon indirecte, c'est pas qu'il a pris l'eau chaude et l'a versée dans la chaudière. Il a ouvert le robinet, ça fait sortir de la chaudière de l'eau chaude, donc ça fait un appel d'eau froide, c'est rentré. C'est fait de façon indirecte, c'est interdit des rabananes. Parce que le indirect, il est long. Il y a plusieurs ricochets jusqu'à ce qu'on arrive au résultat. Mais là, quand tu tires, c'est complètement direct. Je suis en train de tirer maintenant. D'accord? Je tire maintenant. Ou j'ouvre le frigo. L'action 2 est tellement directe. Si tu es intéressé, c'est comme si tu l'as fait elle-même. Donc on a interdit la Torah. Bon, dernière révision. Baruch Adonai, l'Olam Amen.